Chapitre 8e. Les Martins incendiaires. Arlette et sa mère se ressemblaient beaucoup, mais si abîmées par l'âge et par les soucis que fut le visage de Madame Mazol, ce qu'il restait de fraîcheur et d'expression donnait à croire qu'elle avait été plus régulièrement belle que sa fille. Pour élever ses trois enfants et pour oublier le chagrin que lui avait causé la conduite des deux aînés, elle avait travaillé avec acharnement. Et elle travaillait encore à la réparation des dentelles anciennes, ouvrage où elle excellait au point d'y avoir gagné une petite aisance. Denris pénétra dans le petit appartement, luisant et bien propre, et dit « Vous ne pensez pas qu'elle soit bientôt de retour ?»«
Je ne sais trop. Arlette, depuis son histoire, ne raconte guère ce qu'elle fait. Elle a toujours peur que je me tracasse,
et tout le bruit qu'on a fait autour d'elle la désole. » Cependant, elle m'a dit qu'elle allait voir un mannequin qui est malade, une jeune fille qui s'est recommandée à elle par lettre ce matin. Vous savez combien Arlette est bonne, et ce qu'elle s'occupe de ses camarades. Et cette jeune fille demeure loin, j'ignore son adresse. Dommage, j'aurais été si content de causer avec Arlette. Mais c'est facile, elle a dû jeter cette lettre dans la corbeille avec ses vieux papiers, et justement je ne les ai pas encore brûlés. Tenez, ça doit être ça. Oui. Je m'en rappelle, Cécile Éluin, à Levallois-Perret, 14 boulevard de Courcy. Arlette y sera vers 4 heures.
Sans doute va-t-elle y rejoindre M. Fagereau ?
Quelle idée !
Arlette n'aime pas sortir avec un monsieur. Et puis M. Fagereau vient souvent ici.
Ah ?
Il vient souvent,
fit Denris d'une voix crispée.
Presque tous les soirs. Il cause de toutes ces affaires qui intéressent tant Arlette, vous savez, la caisse d'Otale. M. Fagereau lui offre de gros capitaux. Alors ils alignent des chiffres, ils établissent des plans. Il est donc riche, M. Fagereau ?
Très riche.
Madame Mazol parlait fort naturellement. Il était clair que sa fille, désireuse de lui épargner toute émotion, ne la tenait pas au courant de l'affaire Mélamar. Il reprit donc, riche et sympathique.
Très sympathique, affirma Madame Mazol. Il est plein d'attention pour nous.
Un mariage ?
Dit Jean, en grimaçant un sourire. « Oh, monsieur Denris, ne vous moquez pas. Arlette ne saurait prétendre... »«
Qui sait ?»«
Non, non. D'abord, Arlette n'est pas toujours aimable avec lui. Elle a beaucoup changé, ma petite Arlette, à la suite de tous ces événements. »«
Elle est devenue plus nerveuse, un peu fantasque. Vous saviez qu'elle est fâchée avec Régine Aubry ?»«
Est-ce possible ?» s'écria Denris.
« Oui, et sans raison, ou du moins pour des raisons qu'elle ne m'a pas dites. »
Cette fâcherie surprenait Denris. Que se passait-il donc ?
Ils échangèrent encore quelques mots, mais Denris avait hâte d'agir et comme il était trop tôt pour retrouver Arlette à son rendez-vous, il se fit conduire chez Régine Aubry, qu'il rencontra au moment où elle sortait de chez elle et qui lui répondit vivement
« Si je suis fâche avec Arlette ?
Ma foi non, mais elle l'est peut-être.
Enfin, qu'est-ce qu'il y a eu ?
Un soir, j'étais l'embrassé. Il y avait là Antoine Fagereau, l'ami des Mélamar. On a bavardé, deux ou trois fois, Arlette ne s'est pas montrée gentille avec moi, alors je suis parti sans comprendre.
Pas autre chose,
rien. Seulement, Denris, si vous tenez tant soit peu Arlette, méfiez-vous de Fagereau. Il a l'air bien empressé, et Arlette pas indifférente du tout. Adieu, Jean. »
Ainsi, de quelque côté que Denris se retourna, c'était pour en apprendre davantage sur les relations qui unissaient Arlette et Fagereau. Le réveil était brusque. Il s'apercevait tout à coup qu'Antoine Fagereau avait circonvenu la jeune fille, et il s'apercevait en même temps qu'Arlette avait pris dans sa pensée, à lui, Denris, une place considérable. Mais alors, si Fagereau, à n'en point douter, poursuivait et aimait Arlette, est-ce que celle-ci aimait Fagereau ? Question douloureuse, qu'elle put seulement se poser paraissait à Denris la pire des injures pour Arlette et pour lui une humiliation intolérable. Et cette question surgissait dans l'effervescence d'un sentiment dont son orgueil blessé faisait du premier coup le principe même de sa vie.
« 4 heures moins le quart, » se dit-il, en abandonnant son auto à quelque distance de l'endroit indiqué. « Viendra-t-elle seule ? Fagereau l'accompagnera-t-il ? » Le boulevard de Courcy fut tracé récemment à Levallois-Perret, en dehors de l'agglomération ouvrière, et parmi des terrains vagues qui avoisinent la Seine et où subsistent plusieurs petites usines et installations particulières. Entre deux longs murs de briques s'ouvre une allée étroite et boueuse, à l'extrémité de laquelle on aperçoit le numéro 14 inscrit au goudron sur une barrière à moitié démolie. Quelques mètres de couloir en plein air remplie de vieux pneumatiques et de châssis d'automobiles hors d'usage, enveloppe une sorte de garage en bois marron avec un escalier extérieur qui monte vers des mansardes que percent les deux seules fenêtres de cette façade. Sous l'escalier, une porte avec ce mot « frappez ». Denris ne frappa point. À la vérité, il hésitait. L'idée d'attendre Arlette dehors semblait plus logique. Mais en outre, une impression mal définie qui s'insinuait en lui le retenait. L'endroit lui paraissait si bizarre, et il était si étrange qu'une jeune fille malade pût habiter l'une de ces mansardes au-dessus de ce garage isolé, qu'il eut soudain le pressentiment de quelque piège tendu à Arlette, et qu'il évoqua la bande sinistre qui évoluait autour de cette affaire et qui multipliait ses attaques avec une hâte inconcevable. Dès le début de l'après-midi, tentative de corruption et assassinat du conseiller municipal. 2 heures plus tard, machination contre Arlette qu'on attire dans un guet-apens. Comme agent d'exécution, Laurence Martin, la mère Trianon et le vieux qui boitait. Comme chef, Antoine Fagereau. Tout cela se présentait à lui d'une façon si rigoureuse que ses doutes furent aussitôt emportés et ne songeant pas que les complices puissent déjà être là, puisqu'aucun bruit ne venait de l'intérieur, il conclut que le plus simple était d'entrer et de se mettre lui-même à l'affût. Il essaya très doucement d'ouvrir. La porte était fermée à clef, ce qui le confirma dans sa certitude qu'il n'y avait personne. Hardiment, sans même envisager les risques d'une bataille possible, il crocheta la serrure, dont le mécanisme était peu compliqué, pesa contre le battant et glissa la tête. Personne en effet. Des outils, des pièces détachées, quelques douzaines de bidons d'essence rangés les uns sur les autres. Somme toute, un atelier de réparation qui semblait abandonné et transformé en dépôt d'essence. Il poussa davantage. Ses épaules passèrent. Il poussa encore. Et subitement, il eut la sensation qu'un choc formidable l'atteignait en pleine poitrine. C'était un bras de métal fixé à la cloison, actionné par un ressort, et qui, lorsque le bâton prenait une certaine position d'ouverture, se déclenchait avec une violence inouïe. Durant quelques secondes, Denris demeura suffoqué et chancela, perdant ainsi tous ses moyens de résistance. Cela suffisait aux adversaires qui le guettaient, postés derrière les piles de bidons. Et bien que ce ne fussent que 2 femmes et 1 vieillard, ils eurent tout loisir de lui lier les bras et les jambes, de le bâillonner, de l'asseoir contre un établi de fer et de l'y attacher solidement. Denris ne s'était pas trompé dans ses suppositions. Un guet-apens était préparé contre Arlette et c'est lui, le premier, qui s'y jetait étourdiment. Il reconnut la mère Trianon et Laurence Martin. Quant au vieillard, il ne boitait pas, mais il ne fallait guère d'attention pour constater que sa jambe droite fléchissait un peu et qu'il devait, à l'occasion, accentuer ce fléchissement pour laisser croire qu'il boitait de façon constante. C'était l'assassin du conseiller municipal. Les 3 complices ne manifestèrent aucune excitation. On les devinait accoutumés aux pires besognes. Et le fait d'avoir paré l'offensive imprévue de Denris devait être pour eux un incident tout naturel auquel ils n'attribuaient pas une importance de victoire. La mère Trianon se pencha sur lui et revint auprès de Laurence Martin. Elles eurent une conversation dont Denris ne surprit que quelques bribes. « Tu crois vraiment que c'est ce type-là ?»« Oui. » C'est bien le type qui m'a relancé dans ma boutique. « Jean Denris, alors, » murmura Laurence Martin. « Un type dangereux pour nous. » « Probable qu'il était avec Béchou sur le trottoir de la rue Lafayette. »« Heureusement qu'on veillait et que j'ai entendu l'approche de ses pas. »« Pour sûr qu'il avait rendez-vous avec la petite Mazole. » »« Que veux-tu en faire ?» souffla la revendeuse, certaine que Denris ne pouvait surprendre ses paroles. « Ça ne se discute pas, » dit Laurence sourdement. « Hein ?» « Dame, tant pis pour lui !» Les 2 femmes se regardèrent. Laurence montrait un visage intraitable, d'une énergie sombre. Elle ajouta « Aussi, pourquoi se mêle-t-il de nos affaires, celui-là? Dans ta boutique, d'abord, et puis rue Lafayette, et puis ici. Vrai, il en sait trop sur nous, mais nous livrerait. Demande à papa. » Il n'était pas nécessaire de demander son avis à celui que Laurence Martin appelait papa. Les solutions les plus redoutables. Il devait trouver auprès de ce très vieil homme au masque sévère, aux yeux éteints, à la peau desséchée par l'âge, un partisan farouche. À le voir agir d'ailleurs, et commencer des préparatifs encore inexplicables, Denris jugea que papa l'avait tout de suite condamné à mort et qu'il le tuerait froidement comme il avait tué M. Lecourseux. Moins expéditive, la revendeuse parlementa très bas. Laurent s'impatienta et brutalement. « Assez de bêtises. Toi, tu es toujours pour les demi-mesures. Il faut ce qu'il faut, lui ou nous. On pourrait le tenir enfermé. Tu es folle, un type comme ça. Alors, comment ?»« Comme la petite, parbleu. » Laurent se prêta l'oreille, puis regarda dehors par un trou qui perçait la cloison de bois. « La voici, au bout de l'allée. Et maintenant, chacun son rôle, hein ?» Tous les trois se turent. Denris les voyait de face et leur trouvait un air de ressemblance très marqué, qui se révélait surtout par la même expression résolue. C'était évidemment, dans les mauvais coups et dans le crime, des actifs, des êtres accoutumés à l'initiative et à l'exécution. Denris ne doutait point que les deux femmes fussent sœurs et que le vieux fût leur père. Celui-là surtout effrayait le captif. Il ne donnait point l'impression de la vie réelle, mais plutôt d'une vie automatique, fabriquée, et se révélant par gestes commandés d'avance. La tête présentait des angles brusques, des méplats rigides. Pas de méchanceté ni de cruauté, on eût dit un bloc de pierre taillé en ébauche. Cependant, on frappa, comme l'ordonnait l'inscription. Laurence Martin, qui épiait contre la porte, ouvrit, et laissant la visiteuse dehors, prit une intonation heureuse et reconnaissante. « Mademoiselle Mazol, n'est-ce pas ? Comme c'est gentil à vous de vous déranger. Ma fille est là-haut, bien malade, vous allez monter. Est-ce qu'elle va être contente de vous voir ? Vous avez été dans la même maison de couture il y a 2 ans, chez Lucienne Houdard. Vous ne vous rappelez pas ? Ah, elle ne vous a pas oublié, elle. » La voix d'Arlette répondit des mots que l'on ne perçut point. Elle était claire et fraîche et ne trahissait pas la moindre appréhension. Laurence Martin sortit pour la conduire en haut. La revendeuse cria de l'intérieur « Je t'accompagne ? Pas la peine !» dit Laurence d'un ton qui signifiait « Je n'ai besoin de personne, je suis assez forte pour cela. » On entendit les marches craquer sous les pas. Chacune d'elles rapprochait Arlette du danger, de la mort. Denris pourtant n'éprouvait pas encore de crainte trop vive. Le fait qu'on ne l'avait pas tué, lui, du premier coup, indiquait que l'exécution du plan criminel exigeait certains délais, et tout répit laisse un peu d'espoir. Il y eut des piétinements au-dessus du plafond, puis soudain un cri déchirant, que suivirent d'autres cris de plus en plus faibles. Puis le silence. La lutte n'avait pas été longue. Denris pensa qu'Arlette était comme lui, ligotée et bâillonnée. « Pauvre gosse !» se dit-il. Après un moment, les marches craquèrent de nouveau et Laurence Martin entra. « C'est fait !» annonça-t-elle. « Et facilement. Elle a tourné l'œil presque aussitôt. « Tant mieux !» dit la revendeuse. « Tant mieux si elle ne se réveille pas tout de suite. Elle ne s'apercevra de la chose qu'au dernier moment. » Denris frissonna. Aucune phrase ne pouvait annoncer d'une façon plus formelle le dénouement voulu par les complices et les souffrances probables. Et son pressentiment était si juste qu'il en eut la confirmation immédiate par un accès de révolte qui secoua subitement la marchande à la toilette. « Car enfin quoi ? Rien n'oblige à ce qu'elle souffre, cette petite. Pourquoi ne pas en finir avec elle ? N'est-ce pas ton avis, papa ?» Tranquillement, Laurence présenta un bout de corde. « Facile. Tu n'as qu'à lui passer ça autour du cou, à moins que tu n'aies mieux une incision à la gorge, » proposa-t-elle en lui offrant un menu poignard. « Moi, je ne m'en charge pas. Ce ne sont pas les choses qu'on fait de sang-froid. » La mère Trianon ne broncha plus, et jusqu'à la minute même de leur départ, ils ne prononcèrent pas un seul mot. Mais sans tarder, et puisque là où Arlette était réduite à l'impuissance, papa, comme elle disait l'une et l'autre, continuait sa besogne, manœuvrant de telle manière que l'effroyable menace prenait corps et que la réalité s'imposait à Denris, inexorable et monstrueuse. Tout autour de l'atelier, le vieux avait placé sur 2 rangs des bidons d'essence, tous pleins, comme on pouvait s'en rendre compte à la vue de son effort. Il en déboucha plusieurs, et il aspergea d'essence les cloisons et le parquet, sauf sur une longueur de 3 mètres, les lames qui aboutissaient à la porte. Ainsi réserva-t-il un passage conduisant au milieu de l'atelier, en un endroit où il empila d'autres bidons les uns par-dessus les autres. Dans un de ces bidons, il trempa la longue corde que tenait Laurence Martin et qu'elle lui tendit. À eux deux, ils la déposèrent le long du passage. Le vieillard émécha l'autre extrémité, tira de sa poche une boîte d'allumettes et mit le feu à la mèche. Quand ce fut bien pris, il se releva. Tout cela était accompli méthodiquement par un homme qui, au cours de sa longue carrière, avait dû perpétrer beaucoup de besognes du même genre et qui prenait plaisir non pas tant à l'acte lui-même qu'à la perfection qu'il mettait à l'accomplir. C'était en quelque sorte fignolé. Rien n'était laissé à l'imprévu et il ne restait plus aux trois complices qu'à s'en aller paisiblement. C'est ce qu'ils firent, après avoir, derrière eux, tourné la clé dans la serrure. Ils avaient remonté le mécanisme. Inévitablement, l'œuvre diabolique s'accomplirait. La baraque flamberait comme un copeau de bois sec, et Harley disparaîtrait sans qu'il soit jamais possible d'identifier les quelques vestiges calcinés qu'on retrouverait parmi les cendres. Pourrait-on même soupçonner qu'il y avait eu incendie volontaire? La mèche brûlait. Denris estima que la catastrophe se produirait entre la 12e et la 15e minute. Lui, dès la première seconde, il avait commencé le travail pénible de sa libération, se contractait, s'amincissait, gonflait ses muscles. Mais les nœuds étaient confectionnés de telle façon que tout effort les resserrait davantage et enfonçait les liens dans la chair. Malgré son extraordinaire habileté, malgré tous les exercices de ce genre qu'il avait accomplis en prévision de pareilles circonstances, il ne comptait pas aboutir à temps. Sauf un miracle impossible, l'explosion aurait lieu. Il était au supplice. Désespéré d'être pris stupidement au piège et de ne pouvoir rien faire, désespéré de savoir la malheureuse Arlette au bord de l'abîme, il l'enrageait aussi de ne rien comprendre à l'horrible aventure. La liaison entre Antoine Fagerot et les trois complices comptait, pour tant de raisons formelles, au nombre de ces vérités qu'on n'a pas le droit de discuter. Mais pourquoi Fagerot, chef de la bande, et dont le vieillard ne pouvait être que l'agent d'exécution, pourquoi Fagerot avait-il ordonné cet abominable assassinat? Ses plans, qui semblaient jusqu'ici établis sur la conquête amoureuse de la jeune fille, étaient-ils changés au point de comporter sa mort? La mèche brûlait. Le petit serpent de feu cheminait vers le but, selon la ligne impitoyable dont rien ne le ferait dévier. Là-haut, Arlette, évanouie, impuissante en tout cas, était condamnée. Elle ne se réveillerait qu'aux premières flammes. « Encore 7 minutes, encore 6 minutes, » pensait Denris avec épouvante. À peine s'il avait réussi à relâcher un peu ses liens. Cependant, son bâillon tomba. Il aurait pu crier. Il aurait pu appeler Arlette et lui dire toute la douceur des sentiments qui le portaient vers elle, tout ce qu'il y avait de frais et de spontané dans cet amour qu'il ignorait, et dont il n'avait la conscience profonde qu'à l'instant où tout s'effondrait autour de lui. Mais à quoi bon des paroles? À quoi bon si elle dormait? Lui apprendre l'affreuse menace et la réalité toute proche. Et puis non, il ne voulait pas perdre confiance. Des miracles se produisent quand il le faut. Que de fois déjà, traqué de toutes parts, inerte, condamné, sans rémission, avait-il été secouru par quelque hasard prodigieux? Or, 3 minutes restaient. Peut-être les mesures prises par le vieillard se révéleraient-elles insuffisantes. Peut-être la mèche s'éteindrait-elle en montant le long de ce bidon de métal auquel, déjà, elle touchait. De toutes ses forces, il se raidit entre les nœuds qui le torturaient. Après tout, elle était là, sa ressource dernière, dans la vigueur surhumaine de ses bras et de son thorax. Les cordes n'allaient-elles pas éclater? Le miracle ne viendrait-il pas de lui-même, d'Enris? Il vint d'un autre côté, et d'un autre côté que Jean ne pouvait certes pas prévoir. Des pas précipités retentirent soudain dans l'allée, et une voix proféra « Arlette ! Arlette !» L'intonation était celle de quelqu'un qui arrive au secours et qui donne le courage en annonçant la délivrance immédiate. La porte fut ébranlée. Comme on ne pouvait pas l'ouvrir, on la frappa à coups de pied, à coups de poing. Une planche s'abattit, laissant un orifice par où passer la main à hauteur de la serrure. Denris, voyant un bras qui s'agitait, cria « Inutile, poussez, la serrure ne tient pas, hâtez-vous !» De fait, la serrure sauta. La porte fut à moitié démolie. Quelqu'un fit irruption dans l'atelier. C'était Antoine Fagerot. D'un coup d'œil, il vit le péril et bondit sur le bidon qu'il écarta du pied au moment où la partie enflammée attaquait le bord supérieur. Il écrasa la flamme sous son talon, puis, par prudence, dispersa les autres bidons qui formaient le tas central. Jean Denris avait redoublé d'efforts pour se libérer. Il ne voulait pas devoir le fait matériel de sa libération à Fagerot et que cet homme se penchât et fit le geste de couper ses liens. Tout de même, lorsque Fagerot vint vers lui et murmura « Ah, c'est vous !» Jean, débarrassé de ses entraves, ne put s'empêcher de dire « Je vous remercie. Quelques secondes de plus et ça y était. »«
Arlette ?» demanda l'autre.
« En haut. Vivante ?»«
Oui. »
Ils s'élancèrent tous deux et grimpèrent les marches extérieures.
« Arlette, Arlette, me voici !» cria Fagerot.
« Il n'y a rien à craindre. »
La porte ne résista pas plus que celle du hangar. Ils entrèrent dans une mansarde exiguë où la jeune fille était attachée sur un lit de sangle et bâillonnée. Ils la délièrent vivement. Elle les regarda tous deux d'un air égaré et Fagerot expliqua.
« Nous avons été avertis l'un et l'autre, chacun de notre côté, et nous nous sommes retrouvés ici. Trop tard pour les prendre au collet, les misérables. Ils ne vous ont pas fait de mal, vous n'avez pas eu trop peur. »
Il passait aussi sous silence l'affreuse tentative de meurtre et l'œuvre de salut qu'il avait accomplie.
Arlette ne répondit pas, elle ferma les yeux, ses mains frissonnèrent. Après un instant, ils l'entendirent murmurer.
« Si, j'ai eu peur, une fois encore, cette attaque. Qui donc m'en veut ainsi ?
On vous a attiré dans ce garage ?
Une femme, je n'ai vu qu'une femme, elle m'a fait monter dans cette pièce et elle m'a renversé. »
Et elle dit, trahissant l'effroi qui, malgré la présence des deux hommes, la torturait encore.
« La même femme que la première fois. Oh cela, j'en suis sûr, la même femme. J'ai reconnu sa façon d'agir, son étreinte, sa voix. C'était la femme de l'auto, la femme, la femme. »
Elle se tut, subitement épuisée et désireuse de repos. Les deux hommes la laissèrent un instant, et sur les trois paliers qui surmontaient les marches devant la mansarde, ils se trouvèrent dressés l'un contre l'autre. Jamais Jean n'avait autant exécré son rival. L'idée que Fagerot les avait sauvés tous deux, Arlette et lui, l'exaspérait. Il ressentait la plus violente humiliation. Antoine Fagerot était le maître des événements qui tous tournaient en sa faveur.
« Elle est plus calme que je ne l'aurais pensé, » dit Fagerot à voix basse. « Elle n'a pas eu conscience du danger couru, et il faut qu'elle l'ignore. » Il parlait comme s'il eût été déjà en relation directe avec Denrys, et comme s'il admettait que chacun d'eux sut tout ce que l'autre savait. Aucune affectation de supériorité qui eût pu rappeler le service rendu. Il gardait son air de sérénité habituel et un visage à demi souriant et sympathique. Rien ne marquait, du moins chez lui, qu'il y eût lutte entre eux et rivalité. Mais Jean, qui contenait mal sa colère, entama tout de suite le duel, comme il le fait avec un adversaire déclaré, et lui pesant fortement sur l'épaule.
« Causons, voulez-vous, puisque nous en avons l'occasion. »«
Oui, mais tout bas. »
Le bruit d'une querelle lui serait funeste, et on croirait vraiment, ce qui m'étonne, que c'est une querelle que vous cherchez.
« Non, pas de querelle, »
déclara Denrys, dont l'attitude agressive contredisait les paroles. « Ce que je cherche, ce que je veux, c'est une mise au point. »
« À propos de quoi ?»«
À propos de votre conduite. »«
Ma conduite est claire, je n'ai rien à cacher. Et si je consens à répondre à vos questions, c'est que mon affection pour Arlette me rappelle votre amitié pour elle. Interrogez-moi. »«
Oui. »«
D'abord, que faisiez-vous dans la boutique du Trianon quand je vous y ai rencontré ?»«
Vous le savez. »«
Je le sais. Comment ?»«
Par moi.
Par vous ?»
C'est la première fois que je vous parle.
Ce n'est pas la première fois que vous m'écoutez parler.
Et où donc ?
À l'hôtel Mélamar, le soir, du jour où vous m'avez poursuivi avec Béchou.
Durant les confidences de Gilberte de Mélamar et durant mes explications, vous étiez tous deux à l'affût derrière la tapisserie. Celle-ci a bougé quand vous êtes entrés dans la pièce voisine.
Denrys fut un peu interloqué. Rien ne lui échappait donc à cet individu ?
Il continua d'un ton plus âpre.
« Ainsi, vous prétendez que votre objectif est le même que le mien ?
Les faits le prouvent. Je m'efforce, comme vous, de découvrir les gens qui ont volé les diamants, les gens qui persécutent mes amis Mélamar et qui s'acharnent après Arlette Mazol. »
« Et parmi eux se trouve cette marchande à la toilette ?
Oui.
Mais pourquoi, entrez-vous, ce coup d'œil d'intelligence qui l'a mise en garde contre moi ?
C'est vous qui interprétez ce coup d'œil comme un avertissement. En fait, je l'observais. »
Peut-être, mais elle a fermé sa boutique et elle a disparu.
Parce qu'elle s'est défiée de nous tous.
Et selon vous, c'est une complice ?
Oui.
À ce titre, elle n'est pas étrangère au meurtre du conseiller municipal Le Courceux.
Antoine Fagerot sursauta. On eût dit vraiment qu'il ignorait ce meurtre.
Hein ? Monsieur Le Courceux a été tué ?
Il y a 3 heures au plus.
3 heures ? Monsieur Le Courceux est mort ? Mais c'est effrayant.
Vous le connaissez très bien, n'est-ce pas ?
De nom seulement,
mais je savais que nos ennemis devaient aller le voir, qu'ils voulaient acheter ses services, et je n'étais pas rassuré sur leurs intentions. Vous êtes certain que ce sont eux qui ont agi en l'occurrence ?
Certain.
Ils ont donc de l'argent pour offrir ainsi 50 billets de 1000.
Parbleu, avec la vente d'un seul diamant.
Leur nom, je les ignore.
Je vais vous renseigner, du moins en partie,
fit Edris en l'observant. Il y a la sœur de la revendeuse, une dame, Laurence Martin, qui avait loué la boutique.
Il y a un homme très vieux qui boite.
C'est cela, dit vivement Antoine Fagereau.
Et ce sont ces trois-là que vous avez retrouvés ici, n'est-ce pas, et qui vous ont attaché ?
Oui.
Fagereau s'était assombri, il murmura.
Quelle fatalité !
J'étais prévenu trop tard, sans quoi je les empoignais.
La justice s'en chargera. Le brigadier Béchoux les connaît maintenant tous les trois. Ils ne peuvent lui échapper.
Tant mieux, dit Fagereau. Ce sont trois bandits redoutables, et si on ne les coffre pas, un jour ou l'autre, ils réussiront à supprimer Arlette.
Tout ce qu'il disait semblait l'expression profonde de la vérité. Il n'hésitait jamais à répondre. Il n'y avait jamais la moindre contradiction entre les événements et la manière si naturelle dont il les expliquait.
Quelle fourbe !
Pensait Denris, qui s'obstinait à l'accuser et qui cependant était troublé par tant de logique et de franchise. Au fond de lui, il avait supposé que toute la nouvelle aventure d'Arlette était combinée entre Antoine Fagereau et ses trois complices, afin que Fagereau apparût comme un sauveur aux yeux d'Arlette. Mais en ce cas, pourquoi cette mise en scène ? Pourquoi la jeune fille n'en avait-elle pas été le témoin effaré ? Et pourquoi même, vis-à-vis d'elle, Fagereau avait-il la délicatesse de ne pas se targuer de son intervention ? Un brûle-pourpoint, il dit à Fagereau, « Vous l'aimez ?»«
Infiniment, »
répondit l'autre avec ferveur.
« Et Arlette, elle vous aime ?»«
Je le crois. »«
Qu'est-ce qui vous le fait croire ?»
Fagereau sourit doucement, sans fatuité, et répondit, « Parce qu'elle m'a donné la meilleure preuve de son amour. »
« Laquelle ? Nous sommes fiancés. »«
Hein ? Vous êtes fiancés ?»
Il fallut à Denris un effort prodigieux de volonté pour prononcer ces mots avec un calme apparent.
La blessure fut profonde, ses poings se crispèrent.
« Oui, » affirma Fagereau, « depuis hier soir. »«
Madame Azol, que j'ai vue tout à l'heure, ne m'en a pas parlé.
Elle ne le sait pas.
Arlette ne veut pas encore le lui dire. »«
C'est une nouvelle pourtant qui lui sera agréable. »
Oui, mais Arlette désire l'y préparer peu à peu.
De sorte que tout s'est passé en dehors d'elle.
Oui. Denry se mit à rire nerveusement.
Et Madame Mazol, qui croyait sa fille incapable de donner un rendez-vous à un homme. Quelle désillusion!
Antoine Fagereau prononça avec gravité.
Nos rendez-vous ont lieu dans un endroit et devant des personnes qui donneraient toute satisfaction à Madame Mazol si elle les connaissait.
Ah, et qui donc?
À l'hôtel de Mélamar. Et en présence de Gilberte et de son frère.
Denris n'en revenait pas.
Le comte de Mélamar protégeait les amours du sieur Fagereau avec Arlette. Arlette, fille naturelle, mannequin et sœur de deux mannequins qui avaient mal tourné.
En vertu de quoi cette indulgence incroyable ?
Ils sont donc au courant, dit Jean.
Oui, et ils approuvent entièrement.
Toutes mes félicitations.
De tels appuis sont en votre faveur.
Du reste, le comte vous doit beaucoup, et vous avez été longtemps l'ami de la maison.
Il y a une autre raison,
dit Fagereau,
qui a renoué notre intimité.
Puis-je savoir ?
Certes.
Monsieur et madame de Mélamar, comme vous le comprenez, ont gardé du drame où ils ont failli sombrer, l'un et l'autre, un souvenir d'horreur. La malédiction qui pèse sur leur famille depuis un siècle, et qui semble s'exercer sur elle parce qu'elle habite cet hôtel, les a conduits à une décision irrévocable.
Laquelle ? Ils ne veulent plus y demeurer ?
Ils ne veulent même plus conserver l'hôtel Mélamar.
C'est lui qui attire sur eux le malheur. Ils le vendent.
Est-ce possible ?
C'est à peu près fait.
Ils ont trouvé un acquéreur ?
Oui.
Qui donc ?
Moi.
Vous ?
Oui.
Arlette et moi, nous avons l'intention d'y habiter.